Bonjour à toutes et à tous. C'est une joie pour moi d'être là ce matin, de pouvoir partager avec vous la parole, même si les circonstances ne sont pas si heureuses, parce qu'au départ, c'était Alexandre qui aurait dû donner ce message ce matin. Donc, voilà, je voulais quand même vous donner ces salutations, parce que je l'ai eu hier au bout du fil. Il vous salue bien, il a passé une semaine assez éprouvante à la Linière, où ils sont en train de faire pas mal de cardio, comme on dit. Il a pas mal de moments sportifs pour essayer de récupérer au niveau du cœur. Et puis, il a aussi pas mal de cours. Et puis, il m'a dit que c'était fatigant, mais surtout la nuit, de ne pas pouvoir dormir quand on a un énorme ronfleur à côté de soi. Alors par chance, il a pu, même que c'était la première semaine, rentrer hier à la maison, et il a eu une nuit de sommeil bien réparatrice. De samedi à dimanche, ce matin, il m'a confirmé qu'il n'avait pas trop rêvé au ronfleur, ça allait bien. Et gloire à Dieu, il aura un autre ronfleur certainement ce soir. Comme nous célébrons la Pentecôte aujourd'hui, j'ai à cœur de vous proposer un petit voyage au travers des évangiles ainsi que des deux premiers chapitres des Actes, mais je m'arrêterai au verset 11 de acte 2. Donc c'est très bien que tu aies poursuivi. Merci, c'est bien tombé. Soit la période qu'on va couvrir, c'est l'annonce de la naissance de Jésus jusqu'à la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Nous en ressortirons plusieurs situations qui nous montrent que, quelles que soient les circonstances, Dieu est avec nous chaque jour. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, avec nous chaque jour ». Je termine cette introduction avec Matthieu, chapitre 28, la deuxième partie du verset 20, où Jésus dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Premier point, Dieu présent même en silence. Lorsqu'on aborde le Nouveau Testament, je pense qu'il est important de rappeler le contexte historique précédant la venue de Jésus sur terre. Trop souvent, le lecteur passe des livres des petits prophètes de l'Ancien Testament à l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament, sans prendre en compte le temps écoulé entre les deux parties de la Bible, ce qu'on appelle la période intertestamentaire. En effet, avant que le Messie ne vienne sur terre, ça fait plus de 400 ans, que Dieu n'a pu parler à son peuple au travers de prophètes. Les Juifs ont subi plusieurs invasions. Ils ont vécu sous plusieurs régimes et influences, perses, syriaques, grecs. Sous les Maccabées, ils ont bien tenté une révolution indépendantiste, mais elle ne durera pas. À partir de 63 avant Jésus-Christ, ils se retrouvent finalement sous le joug des Romains. Et le Nouveau Testament commence avec l'évangile de Matthieu, qui débute justement lorsque Dieu rompt le silence avec son peuple. Et il est extraordinaire, en tout cas moi je trouve extraordinaire, de constater que certains Juifs ont malgré tout gardé une relation profonde avec Dieu. Et ils ont conservé la foi. Ils connaissent la loi, et certains attendent certainement en silence que les prophéties relatives à la venue du Messie se réalisent. Marie et Joseph en faisaient partie. Nous le voyons dans les évangiles de Matthieu et Luc. Marie, par la foi uniquement, croit sans réserve ce que l'ange Gabriel lui annonce. Et Joseph, lui aussi par la foi, obéit sans sourciller à ce que l'ange du Seigneur lui ordonne de faire. Afin de bien nous imprégner de ces instants bénis où Dieu décide de sortir de son silence, je vous propose que nous lisions tout d'abord ce que Luc nous a rapporté sur l'annonce faite à Marie, et ensuite ce que Matthieu a écrit sur la naissance de Jésus. Je vais lire les textes en entier, vous pourrez les suivre là. Enfin, plus ou moins, c'est vraiment petit. Au départ, je voulais couper dedans, mais pour vraiment comprendre et voir à quel point ça change, comment Dieu est présent, comment il agit de voir ces gens, la foi qu'ils ont, je crois que c'est important de lire en entier ces deux passages. Alors tout d'abord, dans Luc, chapitre 1, les versets 26 à 38. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi qu'une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte, d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Maintenant, nous allons lire l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Ça se trouve dans Matthieu, premier chapitre, versets 18 à 24.
Merci Pierre.
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. On vient de voir comment Dieu s'est manifesté, comment il est sorti du silence. Et on voit les gens qui sont là, c'est en fait, malgré le silence, Dieu il a toujours été présent parce qu'ils avaient encore une relation avec lui. Ils avaient gardé une relation, même s'ils n'avaient que la loi. Ils avaient encore une relation et tout de suite, ils ont, hop, l'ange apparaît, l'ange dit quelque chose, ils savent que c'est l'ange du Seigneur, ils sont pas en train de se dire, c'est quoi ça? Non, ils savent tout de suite d'où vient la parole. Et ils obéissent, et ils ont la foi, ils croient. Oui, bien que Dieu ait été silencieux avec son peuple pendant plus de 400 ans, il ne l'a pas abandonné, ni permis qu'il ne disparaisse malgré les invasions successives, les chamboulements politiques que la région a connus. Et lorsque Dieu décide de sortir de son silence, c'est pour que s'accomplissent les prophéties capitales relatives à la venue du Messie sur terre. Amen. Deuxième point, suivre Jésus. Au tout début du ministère de Jésus, alors qu'il n'a pas encore accompli de miracle, en tout cas pas qui nous ait été rapporté, nous découvrons des personnages ou en couleur qui sont prêts à suivre ce Jésus. Nous pensons souvent que les disciples ont suivi Jésus à la seconde où ils l'ont vu, et que pour cette raison, ils sont des modèles de foi. Toutefois, ce que nous apprennent les Écritures est un peu différent. Ces hommes ont tout d'abord eu l'occasion d'entendre prêcher Jésus alors qu'il était en Galilée. Ils ont ensuite fait sa connaissance. Ainsi, après un certain temps, lorsque Jésus les a appelés à le suivre, ils ont décidé de l'accompagner. Lisons dans Matthieu, chapitre 4, les versets 18 à 22. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ces personnages ont alors suivi à mi-temps Jésus. Ils passaient beaucoup de temps en sa compagnie, mais continuaient en parallèle à travailler. Jésus leur a laissé le temps de bien le connaître, de passer du temps dans sa présence. Il a été patient. Et ce n'est finalement qu'après la première pêche miraculeuse que les disciples ont vraiment tout lâché pour répondre à son appel. À partir de ce moment-là, ils ont arrêté de vivre de la pêche et ont passé tout leur temps avec Jésus. Pour gagner du temps, je ne vous lirai pas aujourd'hui le récit de cette pêche miraculeuse qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 5, mais uniquement le verset 11. Alors, ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Les disciples n'auront jamais regretté d'avoir répondu à l'appel de leur maître. D'ailleurs, ils n'auraient jamais même pu rêver tout ce qu'ils allaient vivre et partager en sa présence. Les miracles, les guérisons, les démons chassés, les multiplications et même une résurrection, sans parler de tous les enseignements. Imaginez une minute tout ce que les disciples ont pu vivre en compagnie de Jésus. C'est tout simplement incroyable, prodigieux, merveilleux. Vous êtes d'accord avec moi, non? Eh bien, comme nous le verrons plus loin, c'est ce que Dieu nous propose de vivre encore aujourd'hui, jour après jour. Amen. En fait, si on réfléchit, nous sommes souvent comme les disciples. Nous avons tout d'abord besoin d'entendre parler de Jésus plusieurs fois, avant d'accepter de le suivre à cause de son témoignage et pour qui il est. Ensuite, nous acceptons de collaborer avec Jésus en passant du temps avec lui, que ce soit en lisant la parole, en priant, etc. Finalement, nous acceptons de suivre Jésus à plein temps en abandonnant notre vie passée. Vous savez, quand j'étais jeune, il y avait quelque chose qui me chagrinait lors des campagnes d'évangélisation, et je pense qu'on est plusieurs dans le cas dans cette salle aujourd'hui. Souvent, les prédicateurs brandissaient le spectre de l'enfer pour faire peur à l'assemblée et convaincre les non-croyants de donner leur vie à Dieu. Oui, il y a une vie après la mort. Oui, l'enfer existe. Oui, c'est notre devoir d'en parler et d'avertir le monde. Mais sachant que l'enfer, c'est vivre en dehors de la présence de Dieu, n'est-il pas plus percutant et pertinent de convaincre en expliquant ce qu'est la vie avec Dieu? La vie en abondance, une vie comme les disciples l'ont vécu, une vie de foi faite de miracles, de guérisons, une vie où même si tout semble fichu, nous pouvons nous en remettre à Dieu et lui faire totalement confiance, une vie où Dieu nous relève quand nous tombons, une vie où il nous donne sa paix alors que nous traversons la tempête, oui, une vie riche et bénie dans la présence de Dieu. Si quelqu'un a entendu l'appel de Dieu, qu'il ne résiste pas et n'endurcisse pas son cœur, mais qu'au contraire, tout comme les disciples, il réponde à l'invitation du Seigneur et accepte de le suivre. Je ne veux pas faire ce que j'ai reproché à d'autres, mais je ne peux que vous encourager à ne pas attendre pour répondre à l'appel du Seigneur. Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve et je crois que nous avons eu, de près ou de loin, suffisamment d'exemples ces derniers temps et nous ne sommes pas épargnés. Emmanuela, qui s'est retrouvée d'une seconde à l'autre dans le coma. Alexandre, victime d'un infarctus, heureusement sans gravité. Michel, qui a perdu son fils aîné. Ce jeune de 13 ans, qui est décédé tragiquement à la Chaux-de-Fonds. L'enfant de 8 ans, qui est tombé dans les gorges de la Reuse et qui s'est trouvé entre la vie et la mort. Cet homme encore, qui a fini carbonisé dans son véhicule. Si vous avez entendu l'appel de Dieu, n'hésitez plus. Suivez-moi, dit le Seigneur. Amen. Troisième point, présent, malgré nous, et oui, malgré nous, avec amour. Ce n'est pas parce que nous avons décidé de suivre Jésus que notre vie devient un long fleuve tranquille, loin. Non, non, vraiment loin de là. C'est ce que vont expérimenter les disciples avec l'arrestation de Jésus et sa crucifixion. Malgré tout ce qu'ils ont vécu avec Jésus, tous les prodiges qu'ils ont pu voir et expérimenter, ils n'avaient pas compris que leur maître allait ressusciter d'entre les morts. Non, une fois que Jésus a expiré, la déception et la tristesse sont telles qu'ils en oublient rapidement le temps passé en présence du Messie. Plutôt que d'invoquer le nom de Dieu, ils s'en retournent à leurs occupations d'avant. Eh oui, certains retournent pécher. Nous aurions peut-être pu nous attendre ou même trouver normal que Jésus, une fois ressuscité, soit triste ou qu'il se fâche face à l'attitude de ses disciples qui n'avaient pas su attendre 3 malheureux petits jours que la prophétie de la résurrection du Christ se réalise. Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe. Jésus, avec amour et grâce, ne leur fait aucun reproche. Il partage le repas avec eux qu'il appelle désormais amis. Mieux encore, il accomplit un nouveau miracle en faveur des disciples qui étaient sur le point de rentrer bredouille d'une nuit entière passée à pêcher. Jésus transforme cette pêche infructueuse en une pêche miraculeuse. La barque se retrouve alors pleine à craquer de poissons. Quelle preuve d'amour pour ses disciples! Quelle joie ils ont dû éprouver de se retrouver à nouveau pleinement dans sa présence! Certains pensent peut-être que Jésus était trop bon ou trop clément avec les disciples. Et pourtant, même s'il n'est pas toujours évident de le reconnaître, nombre de chrétiens réagissent comme les disciples. Quand l'épreuve, la difficulté ou la déception apparaissent, même s'ils ont vécu auparavant de magnifiques choses, ils s'éloignent de Dieu. Et certains finissent même par l'abandonner complètement. D'ailleurs, ça arrive souvent sans que l'on s'en rende compte tout de suite. Les causes sont très diverses. Il peut s'agir d'un mariage qui bat de l'aile, d'une maladie, de problèmes au travail ou la perte d'un emploi, du décès d'un proche, d'une déception parce que Dieu ne répond pas assez vite à nos prières, d'un conflit dans l'Église, etc., etc., la liste est longue. Si ce matin, une personne est dans cette situation, je ne peux que l'encourager à revenir à Dieu et à lui refaire confiance. Sachez que Dieu vous aime, il vous tend les bras. Oui, soyez encouragés à revenir à lui, car même lorsque nous nous éloignons de lui, Dieu reste fidèle. Il nous restaure, il guérit les cœurs brisés, il soulage les opprimés, il renouvelle nos forces et nous pardonne toujours si nous le lui demandons sincèrement. Dieu est non seulement fidèle, mais il est omniprésent. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Quatrième et avant-dernier point, la joie dans la promesse et la présence de Dieu. Maintenant que les disciples ont vu la gloire du Christ ressuscité, comme vous l'imaginez, ils sont regonflés à bloc, et ils profitent pleinement du temps qu'ils peuvent passer avec Jésus, qui leur donne encore des enseignements. Selon ce qu'il était prophétisé dans 2 psaumes, et ce que Jésus leur a répété à plusieurs reprises, dans peu de temps, le Fils rejoindra le Père au ciel. En effet, l'ascension est imminente. Afin de réconforter ses disciples et affermir leur foi, Jésus les charge d'une mission et leur fait des promesses extraordinaires. Tout d'abord, dans Luc 24, verset 49, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Jean 14, verset 16 à 18, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. » Actes, chapitre 1er, les versets 4 à 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Avant que Jésus ne monte au ciel, il bénit ses disciples qui l'envoient désormais en mission. Luc 24, verset 50, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. » Encore aujourd'hui, toutes les personnes qui sont engagées dans la mission ont droit à cette bénédiction. Jésus dirige et conduit toutes choses dans leur vie. Après que Jésus ait quitté les disciples pour rejoindre son Père, il nous est rapporté qu'ils ont eu une réaction totalement à celle qu'ils avaient eue après la crucifixion. Vous vous souvenez, après la crucifixion, que Jésus était décédé, ils ne croyaient pas vraiment qu'il allait revenir, ils ont fait quoi? Ils ont pleuré un petit coup, puis ils sont retournés travailler. Eh bien, on le voit, quand Jésus est monté au ciel, la réaction, c'est vraiment l'inverse. Dans Marc 16, tout d'abord, les versets 19 à 20. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Luc 24, versets 51 à 53. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Quelle joie! Oui, quelle joie d'expérimenter la présence de Dieu et d'être au bénéfice de sa bénédiction. Cinquième et dernier point, Dieu tient ses promesses. Comme Jésus le leur avait demandé, les disciples sont restés à Jérusalem pour attendre que s'accomplisse la promesse qu'il leur avait faite. Nous lisons dans Actes 2, les versets 1 à 11, de quelle manière magistrale le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Un peu petit, hein? Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns les autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthe, Mède, Elamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » Je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet aujourd'hui, car ce n'est pas mon propos ce matin, mais je vous laisse juste imaginer un instant la scène. Quelle manifestation extraordinaire du Saint-Esprit. D'autant plus que toutes les personnes présentes, y compris les disciples ou les apôtres, contrairement à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ne connaissaient pas le parler en langue. C'était quelque chose de totalement nouveau. Jésus avait bien promis à ses disciples qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit et recevraient une puissance quand il viendrait sur eux. Mais je suis sûr, mais archi sûr, qu'aucun d'entre eux n'avait soupçonné une démonstration aussi époustouflante. Mais encore bien plus important que le parler en langue, il s'agit tout simplement de l'accomplissement de la promesse que Jésus a faite d'être avec eux, avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Fort de cette aide, les disciples ont non seulement été renouvelés, mais de plus, ils ont désormais les outils nécessaires pour accomplir à bien la mission que Dieu leur avait donnée. Hop, pour rappel, dans Matthieu, chapitre 28, les versets 19 et 20, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Marc, chapitre 16, verset 15, « Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Nous le voyons à nouveau, quand Dieu promet quelque chose, il s'y tient, et généralement avec éclat. Amen. J'en arrive gentiment à la conclusion, mais réjouissez-vous pas trop vite, elle est quand même assez longue. Aujourd'hui encore, selon sa promesse, Jésus se tient à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est celui qui relève, qui guérit, qui soutient, qui affermit, qui console, qui bénit, qui donne la joie et la paix. Le Saint-Esprit œuvre lui aussi encore aujourd'hui. Soyons donc encouragés à aspirer aux dons de l'Esprit tels qu'ils sont mentionnés dans la première épître aux Corinthiens. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Oui, soyons encouragés à croire et à proclamer la bonne nouvelle. Soyons assurés que le Seigneur confirme encore aujourd'hui la parole par les signes tels que décrits dans l'évangile de Marc. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Hasard du calendrier, ou des choix de Pierre, ce verset se trouve dans le trait d'union de ce mois. Et mon épouse qui l'a lu m'a posé la question dimanche passé. « Ouais, je veux bien parler de nouvelles langues, ok, c'est entendu. Qu'il y ait des guérisons, oui, j'en ai pas vu, mais c'est entendu. Mais rattraper des serpents, est-ce que ça s'applique encore aujourd'hui ?» Et puis boire des breuvages mortels, quel breuvage mortel ? Elle était un peu dubitative. Et puis, plutôt que de lui répondre directement n'importe quoi en disant « Ouais, mais il y a 50 ans, tel pasteur a dit que… » ou de faire une recherche sur Internet parce que je trouvais un peu facile, ben, j'ai attendu. Et sur le moment, une image m'était venue, mais je pensais que ça valait pas la peine d'en parler. Par exemple, on peut penser aussi aux personnes qui, sans le vouloir, boivent un verre où il y a du GHB, la drogue du violeur, et qu'en fait, ces personnes sont protégées, que rien ne leur arrive, ou qu'il n'y ait aucun effet avec cette drogue. Mais ça, c'est pas assez. Non. Et j'ai entendu mardi un pasteur de la Porte Ouverte chrétienne qui racontait qu'il était de je ne sais plus dans quel pays, en tout cas dans un pays très chaud, je suppose en Afrique, parce que j'ai pas retrouvé. Il était avec un autre pasteur et avant de partir faire plusieurs centaines de kilomètres dans les terres, ils ont oublié de mettre dans leur coffre des boissons. Ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient rien. Et quand ils s'en sont rendus compte, c'était beaucoup trop tard pour revenir en arrière. Ils étaient littéralement en train de mourir de soif. Vous savez ce que c'est déjà, après une heure là, on a soif. Mais imaginez, vous êtes dans un endroit où il fait plus de 40 degrés à l'ombre, vous n'avez rien à boire. Je pense que Georges en connaît un rayon. Et ils ont vu qu'il y avait, ça devait pas être un pays musulman, parce qu'ils ont vu un endroit où il y avait des cochons, une auge à cochons, et il y avait l'eau des cochons, l'eau souillée des cochons. Et là, ils se sont dit, ben voilà, on va demander à Dieu et on va expérimenter ces signes, on va expérimenter le fait de, si Dieu est d'accord, de boire un breuvage qui est potentiellement mortel, ou au moins qui peut apporter de sacrés désagréments. Et ils ont bu de cette eau, qui était, mais je pense même avec des excréments. Ben, faut pas avoir peur des mots. Et ils n'ont strictement rien eu. Pas la moindre petite douleur, pas la moindre crampe d'estomac. Donc oui, Dieu, encore aujourd'hui, il confirme par les mêmes signes qu'avant. C'est pas extraordinaire? Tout comme j'ai commencé, je termine avec cette parole de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, le Dieu trinitaire est avec nous chaque jour. Amen. Amen. Si ce matin une personne souhaite qu'on prie pour elle, on le fait volontiers à la fin du culte. Il suffit de venir vers nous. Voilà. Bon dimanche, bon lundi de congé, bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.